littérature,
cybernétique,
avenir,
prospective,
science-fiction,
liberté,
utopie.
We can face any future.
Any future.
Any future.
Le podcast des Utopiales. Utopiales 2021. L'œuf du serpent. Patrick Cadieudney, Denis Bajram, Ludivine Bantigny. Modération, Yann Olivier.
Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous voir réunis tous ici au milieu, presque à la fin de ces utopiales, juste avant l'annonce du prix. Nous sommes ici pour parler d'une conférence autour de... Alors, il est indiqué la montée des extrêmes et de façon générale... L'œuf du serpent. L'œuf du serpent, c'est quoi? Pourquoi ce titre de conférence? C'est un film d'Ingmar Bergman en 1923. Qui a été tourné en 1977, mais où le personnage principal évolue dans une Allemagne post-Première Guerre mondiale en 1923. Il s'appelle Abel, il est juif, chômeur, alcoolique. Et du coup, il va parcourir Berlin après avoir été accusé de plusieurs meurtres, après avoir retrouvé son frère assassiné. Et du coup, il va voir peu à peu des ratonnades de juifs ou par des milices, avec parfois la participation de la police, jusqu'à tomber dans les caves d'un hôpital dans lequel un médecin aux allures de Mengele commence à déjà créer ce que sera après l'ensemble du projet médical, comment il s'appelle déjà, euthanasie tout simplement, il me semble. Et du coup, l'ensemble de ce film montre que au sein même de la République allemande après la Première Guerre mondiale, il y avait des éléments qui ont mené peu à peu au désastre nazi. On voit aujourd'hui à quel point cela est crucial de pouvoir lire l'ensemble de ces signes dans notre société et dans notre modernité. Et du coup, pour parler de tout cela, j'ai à mes côtés, tout au bout, Denis Bajram.
Bonjour.
Auteur de bande dessinée, notamment de la gigantesque œuvre universelle War One, et qui s'est peu à peu après fait en Universal War Two. Vous avez commencé en 98 et ça continue toujours.
Oui.
Toute dernière, cependant, c'est Les Inhumains.
Non, ma toute dernière, c'est un Goldorak.
Ah, mais oui, mais bien sûr.
C'est trop visible, je crois.
On en parle tellement depuis le début des Utos. Mais oui.
Mais je ne suis pas tout seul, en l'occurrence.
Exactement.
Voilà.
Vous êtes nombreux à raviver le mythe de Goldorak. Et dans Les Inhumains, je pense que c'est parce que Les Inhumains étaient plus proches aussi.
Inhumains est dans notre sujet, on va dire.
Exactement, voilà. Dans le sujet, puisque... Un vaisseau découvre une planète sur laquelle des humanoïdes résident, humanoïdes à la fois dociles et cannibales, et toute l'intrigue va s'orienter là-dessus. À vos côtés, il y a Ludivine Bantigny, vous êtes historienne, maître de conférence à l'université de Rouen, spécialiste de mai 68, on peut dire ça. Qu'est-ce que...
Bah, oui, notamment, oui. Disons, je travaille sur les révolutions sociales, les soulèvements populaires, les conditions de travail et les espoirs de justice et d'égalité. Voilà. Merci beaucoup, bonsoir.
Vous publiez deux ouvrages cette année, La Commune au présent et aussi Face à la menace fasciste, Sortir de l'autoritarisme, qui nous intéressera particulièrement. Le titre est clair et vous tentez de reconnaître les signes du fascisme et donner des pistes pour s'en sortir. Et à vos côtés, Patrick Dudenay.
Salut.
Auteur du cycle de Sif Au Diable Vauvert. Le premier volume, L'Enfant de Poussière, est couronné du prix Pépite à Montreuil, du prix Libre à nous et du GPI pour les deux premiers volumes, il me semble.
Oui, entre autres.
Et Chien de guerre, Les chiens et la charrue est sorti en septembre de cette année, qui est le troisième volume de ce cycle. Dans cette série, nous suivons Sif, un orphelin qui ne suivra pas la trajectoire classique de l'orphelin et de la fantaisie classique, puisqu'il subit largement les décisions que d'habitude on voit être prises par la fantaisie. Et du coup, c'est une fantaisie à hauteur d'homme.
Oui, bah, je pense que j'écris une fantaisie qui se revendique matérialiste de façon assez ouverte. Donc effectivement, je mets en scène un personnage qui est le fruit de sa trajectoire dans le sens bourdieusien du terme. Voilà.
Entendu. Et bah, je voulais commencer cette table ronde en interpellant Denis Bajram sur votre texte que vous aviez fait il y a maintenant presque 2 ans, lorsque le cadavre de Steve Maya Caniso avait été trouvé. Je pense qu'on ne peut pas parler ici à Nantes de cela, de montée du fascisme, sans parler de Steve Maya Caniso et de façon générale de l'ensemble de ce que vous aviez appelé « s'habituer à l'horreur ». Vous citiez le fait que, de façon sidérée, vous citiez le fait qu'il y avait Rémi Fraisse avant, Adama Traoré, Chao Yao, Zineb Redouane, et que l'ensemble de cette liste ne faisait que s'allonger, et que nous ne faisions que nous habituer à ça. Ça fait 2 ans, on a appris, il y a dans le Canard la semaine dernière, que eh bien, ce qui avait été annoncé comme borné était en fait le dernier SMS. Qu'est-ce que vous pensez maintenant, 2 ans après? Est-ce que vous êtes toujours dans un état de sidération? Est-ce que vous avez des pistes pour sortir de l'horreur?
C'est un témoignage très personnel, mais quand j'étais petit, je ne comprenais pas comment les gens avaient pu laisser leur pays basculer dans l'horreur de la guerre, du fascisme, etc. C'était des gens différents, quoi. Ça ne pouvait plus arriver. Et en tant qu'auteur de science-fiction, ce que je projetais dans les années 90, c'était une dérive de l'économie, une dérive. Mais imaginez qu'on puisse ressortir le vieux monstre du fascisme sous toutes ses formes, avec toutes ses tentacules, aussi rapidement. C'était vraiment hors de portée de mes pires outrances d'auteur de SF, quoi. Et en effet, ça passe par s'habituer à l'horreur. C'est tout aussi valable pour ce qui se passe aujourd'hui en Méditerranée. On pleure le pauvre petit garçon sur la plage il y a je ne sais pas combien d'années, mais c'est pas si loin, c'est moins de 5 ans, j'imagine. Là, aujourd'hui, la plupart des gens trouvent que l'Ocean Viking, quand même. Hein, et à cette vitesse-là, on tire sur les gens en Méditerranée qui tentent de fuir la catastrophe qui est arrivée chez eux. On leur tire dans 2-3 ans dessus. Hein. Il suffirait qu'un pays européen bascule dans un régime plus dur pour que les digues cèdent et qu'on en arrive à ce genre d'extrême. Et on s'habitue à l'horreur à une vitesse. Moi-même, je n'arrive pas à être choqué chaque matin en me levant, en pensant au sort qu'on a fait en Méditerranée à ces gens, où on a simplement mis fin à la plus vieille loi de la mer, qui est d'aider les autres. Et on s'habitue. Enfin, j'ai beau être choqué là en parlant, l'émotion monte, mais en même temps, je sais bien que dans 2 heures, je serai en train de manger mes nouilles et que ce sera passé, quoi. Et si on reste dans une position d'émoi permanent, on ne survit pas, parce que là, aujourd'hui, les mauvaises informations tombent chaque matin, chaque minute. On a les dystopiales qui s'organisent à Nantes en parallèle avec le grand Z qui vient prêcher la haine. C'est marrant, on était dans un petit coin de paradis ici, au moment des Utopiales. Le nom est bien choisi. On a même réfléchi entre auteurs. Je me souviens, il y a une dizaine d'années, à dire qu'il va falloir repenser des utopies. Le monde n'est pas très excitant. Essayons d'avoir de la pensée positive, mais en même temps, le monde nous rattrape à une vitesse interstellaire. Là. Donc voilà, ce texte, il est sorti ce jour-là, mais tous les jours, j'ai envie de l'écrire. Tous les jours, j'ai envie d'écrire en tant que responsable syndical, aussi dans mon milieu, hein, petite échelle. Je vois bien... plein de gens qui sont capables de traiter des gens en face d'eux en sachant de manière très, très réelle qu'ils vont gagner 700 € par mois pendant un an ou deux et trouver ça normal. Donc ces gens sont habitués à infliger un traitement qui, dans nos sociétés, n'est pas tenable pour quelqu'un. On ne vit pas avec 500 €, on survit. Quoi. Et ainsi de suite. Donc voilà, c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'on s'habitue.
Pour voir les mécanismes de cette habituation, est-ce que vous pourriez tenter de nous... parce qu'on a vu, on en a parlé un tout petit peu avant, la question de la montée des extrêmes. Il n'y a pas plusieurs extrêmes qui montent. Il n'y en a qu'un, en fait.
Faut être honnête, ça déclenche d'autres montées d'extrêmes en face, y compris dans mon camp, j'allais dire. Parce qu'à des moments, on s'énerve, hein, c'est inévitable. À des moments, on réagit fortement. Quand des choses sont bafouées, on finit à des moments par attraper un caillou. Hein, moi, je l'ai fait de manière que virtuelle pour l'instant, mais j'ai jeté des cailloux que j'aurais pas pensé jeter il y a 20 ans. Hein, donc, ça provoque une montée générale de la violence qui sera utilisée, on le sait, on l'a vu fonctionner. Des gens vont venir pour rétablir l'ordre, alors que c'est eux-mêmes qui auront déclenché le désordre. Hein. C'est toujours comme ça que ça marche. Donc, il y a une montée. Je dirais pas qu'il n'y a pas une montée du radicalisme partout. Quoi. Je suis quand même surpris des conversations que j'ai avec certains de mes amis que je sais étaient dans la tentative d'amélioration du monde positive il y a 10 ans et qu'aujourd'hui ont des envies de foutre le feu. Hein, donc, c'est ça qui est inquiétant, c'est qu'en fait, on est en train de tous nous transformer en moteur de colère, de même pas de révolte, parce qu'en fait, malheureusement, c'est on gueule sur les réseaux sociaux, on va signer des pétitions, on s'énerve dans la rue, mais on voit très bien que nos actes sont en grande majorité profondément inutiles. Quoi. C'est en plus la chose la pire dans tout ça. Donc, on a beau essayer de s'organiser, enfin, j'ai pas été le dernier à passer des millions d'heures à essayer de la base, rebâtir des choses, etc. Le courant est terrible en face, là, aujourd'hui.
Je te voyais réagir aussi, Patrick, pour ta part, sur la montée des extrêmes. À ton avis, est-ce qu'il y a vraiment une montée des deux côtés ? Est-ce qu'il y a un manque aussi de définition de ce qu'est les extrêmes ?
Je ne sais pas s'il y a un manque. Je pense qu'il y a, beaucoup de projections. Pour nommer les choses, on va essayer de dire que les extrêmes se rejoignent et de mettre sur un même pied d'égalité la violence d'extrême droite et la violence d'extrême gauche ou de je ne sais pas... On va parler du camp progressiste et réactionnaire, en gros, des camps progressistes et réactionnaires. Non, je pense qu'il ne s'agit pas de la même chose. On a d'une part un camp qui est en pleine démonstration de force, qui est aujourd'hui activement employé à s'emparer des institutions et qui professe quotidiennement, publiquement, leur volonté de s'en servir pour mener à bien, en gros, des opérations d'épuration ethnique, soyons très clairs. Donc, entre ça et lancer des pierres, ou foutre le feu, mais enfin non, lançons des pierres et foutons le feu.
Ludivine Batignolle, vous, vous écrivez dès l'introduction de face à la montée du fascisme que vous n'utilisez pas ce terme aisément, qu'il est. Il est pensé quand vous l'utilisez. Est-ce que vous pouvez rapidement nous en faire une petite définition et des quelques signes que vous voyez dans ce livre ?
Oui, merci. D'abord, je voudrais dire aussi, dans le prolongement de ce que vient d'exprimer Patrick, que j'aime pas du tout la formulation « montée des extrêmes », cette manière finalement de renvoyer dos à dos des perspectives politiques, sociales, qui n'ont mais rien à voir. Donc, moi, je pense qu'il y a une extrême droitisation. Évidemment, il y a une surenchère permanente, terrible, extrêmement alarmante, d'une part. Il y a aussi ce qu'on appelle de plus en plus une forme d'extrême centre qui se prétend centriste, qui se prétend modéré, raisonnable, mais qui est en réalité un déversoir aussi de violence, d'attaque. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on subit des attaques au bulldozer, hein, et que ça, c'est une forme d'extrémisme, en fait. Quand des choses qui ont été conquises, des acquis en termes de santé publique, en termes de culture, de travail, de droit, quand tout ça est remis en cause vraiment dans une espèce de marche forcée et caporalisée, je pense que c'est une forme d'extrême. En revanche, peut-être que les gens se disent « Ah, ben oui, bon, donc elle est d'extrême-gauche. » Bon, je ne sais pas, je ne me suis jamais reconnue dans cette formulation d'extrême-gauche. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de particulièrement extrême. Peut-être radical, oui. Radical, c'est aller à la racine, mais rien de particulièrement extrême à espérer un monde de justice sociale, de justice environnementale, de dignité, d'égalité, de démocratie véritable, etc. Bon, donc ça, c'est la première chose. Parce que... Merci. Voilà, et donc, pour aller dans le sens de ta question... C'est vrai que dans le livre que Ugo Paletta, qui est un sociologue qui a beaucoup réfléchi au fascisme, donc face à la menace fasciste, on commence par dire qu'on n'emploie pas le terme de fascisme à la légère. Et très sincèrement, comme historienne, mais pas seulement, j'aurais jamais imaginé écrire un tel livre il y a quelques années. J'aurais même jamais imaginé employer ce terme que je considérais comme appartenant relativement au passé. Hein, ça va dans le sens de ce que tu as dit. Et donc, dans le livre, on insiste bien aussi sur une chose, c'est que pour nous, on ne vit pas dans un régime fasciste. Enfin, on ne pourrait évidemment pas se réunir comme ça et en parler tranquillement si on était sous le fascisme. Ce qu'on dit, c'est qu'on observe des traits de fascisation et que finalement, le fascisme, il n'est pas relégué nécessairement dans les oubliettes de l'histoire. Ce n'est pas pour ce qui est lointain dans le temps ou dans l'espace. C'est vrai qu'on observe des sociétés qui se fascisent à vitesse accélérée et à deux pas de chez nous, en Turquie, on le voit aussi au Brésil, par exemple, on le voit en Inde. Bon. Mais ça n'est pas réservé à l'ailleurs. Et donc, le fascisme... Alors, je ne vais pas citer des grands noms de théoriciens, mais quand même, ce que disait Gramsci, c'est que le fascisme, il apparaît quand il y a une crise d'hégémonie. C'est-à-dire quand le pouvoir ne peut plus se reproduire par le simple consentement et qu'il doit de plus en plus avoir recours à la répression et dès lors à la violence. Gramsci disait que ce sont autant de symptômes morbides et c'est ça qu'on essaie de repérer, des formes de fascisation. Le fascisme, il a pour matrice l'idée d'une nation et d'une race qui doivent être vénérées par-dessus tout. Au prix donc justement du racisme, de la xénophobie institutionnalisée, de l'antisémitisme bien évidemment, et d'autres formes justement de rejet de toute altérité. Il est absolument antidémocratique, même s'il ne faut pas se dire « bon ben voilà, c'est bon, on vit en démocratie, donc le fascisme, ce n'est pas possible ». Moi j'ai en tête une phrase de Bertolt Brecht qui disait le fascisme n'est pas l'opposé de la démocratie, c'est un état de la démocratie quand elle entre en crise, justement dans cette crise de reproduction du pouvoir, en fait. Il a donc les lumières, le fascisme, il a les lumières en horreur, il a la Révolution française, notamment en horreur. Hein. Goebbels disait qu'il fallait déchirer la page de la Révolution française dans l'histoire, parce que c'est les droits humains, c'est la liberté, c'est l'idée de dignité justement des humains. Et puis, il a aussi pour caractéristique d'éliminer de manière systématique ses opposants. Donc, on n'en est pas là. Mais les traits de fascisation, ben, on peut les observer au travers de ce que tu disais, en fait, évidemment, dans l'idée que on banalise l'horreur, on banalise la mort généralisée, notamment en Méditerranée. On banalise aussi et on criminalise la solidarité. Je pense par exemple à ce maire italien d'un petit village de Calabre, le village de Riace. Ce maire s'appelle Domenico Lucano et il vient d'être condamné à 13 ans d'emprisonnement pour avoir accueilli dans son village des familles d'exilés, de réfugiés, et avoir fait revivre en fait son village avec toutes sortes d'activités qui ont repris, des services publics, etc. Et en fait, comme ça a été considéré comme une immigration illégale, il vient d'être condamné à 13 ans d'emprisonnement. Voilà. Mais nous aussi, on y participe. Enfin, je veux dire, le pays dans lequel on vit y participe. La fascisation, c'est aussi des formes de racisme banalisé. Quand on laisse se déverser sur les plateaux télé l'idée même de la remigration, hein, ça va dans le sens de ce que tu disais, Patrick, en fait, la remigration, c'est rien d'autre que des déportations. C'est rien d'autre que du nettoyage ethnique. Hein. C'est ça que ça veut dire, la remigration. Quand on voit qu'une partie des forces de l'ordre prennent tellement la confiance qu'elles vont intimider des journalistes en encerclant de manière armée la maison de la radio. Quand on voit qu'il y a des manifestations devant l'Assemblée nationale de policiers qui en fait, viennent intimider les parlementaires et la justice en disant le problème de la police, c'est la justice. Voilà, quand on voit justement toute cette série d'attaques, de répression. Denis, tu parlais de syndicalisme. Il y a aussi une répression syndicale. Il y a une répression de manière générale de tout ce qui s'oppose, en fait, et de tout ce qui cherche à s'organiser autrement. Et ici, on le sait très bien. Enfin, en quoi les cabanes de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes peuvent-elles gêner le pouvoir au point qu'il en est conduit à envoyer ses bulldozers pour détruire des cabanes? Mais parce que, en effet, c'est on montre qu'on peut vivre autrement. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible aux yeux d'un pouvoir qui, justement, a besoin de reproduire sans cesse son hégémonie. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais...
Bon, on est là pour ça. d'ailleurs, vous parlez de syndicalisme et de répression du mouvement syndical. J'ai toujours été assez frappé qu'on voit le néolibéralisme de façon globale comme une société apportant la liberté, et pourtant c'est aussi le règne pour une partie de notre vie absolument vitale, enfin bien sûr centrale, c'est-à-dire le travail, un endroit où l'autoritarisme est là en permanence, puisque nous n'avons d'autre choix que de vivre sous l'égide du capital, d'y avoir notre survie, et de l'autre côté nous n'avons aucune décision si nous ne possédons pas les moyens de production. En tant que syndicaliste, Denis,
Ça va au-delà de ça. Dans Universal War, c'est le pari que j'avais pris dans les années 90, que le libéralisme économique total appliqué au système solaire a mené d'office à un système totalitaire d'ordre fasciste. Qu'on n'y échappait pas, parce que la destruction finale des États se terminait par une prise en main par des nouvelles entités qui feraient exactement la même chose que les États fascistes, en fait, mais en plus sans avoir d'autres justifications que leur puissance économique. Donc moi, je suis persuadé qu'on dit souvent que le capitalisme mène au fascisme, mais dans sa forme néolibérale, il y va par d'autres voies. Alors moi, je suis dans un milieu, la bande dessinée, mais c'est vrai pour tous les auteurs professionnels, hein, ceux qui essayent d'en vivre, où il n'y a pas de droit du travail, il n'y a même pas de SMIC, il n'y a aucune des protections qu'on a mis lentement et sûrement en place, même si c'est loin d'être parfait pour l'ensemble des travailleurs en France. On est hyper ubérisé depuis toujours et jusqu'à pour toujours, si ça continue comme ça. Et on voit très très bien qu'il n'y a aucun respect de la personne humaine à l'arrivée, parce qu'encore une fois, quand on a un auteur en face de soi, qu'on accepte, qu'on sait qu'il va travailler toute une année, et qu'on le paye 700 euros par mois, on est en train de créer soi-même un pauvre, comme on le créait quand on était patron de mine. Hein, y a pas de différence. Alors, tous les éditeurs ne le font pas, encore une fois, c'est là aussi le problème, c'est qu'il y a une cascade. On part de gens, allez, on va dire plutôt vertueux, déjà très sympathiques, et puis qui ont une petite idée que même leur propre intérêt ne serait pas de faire des pauvres, qu'ils ont intérêt à avoir des auteurs en forme, qui mangent, qui gardent leurs dents et qui peuvent travailler avec leurs mains. Donc ceux-là vont les traiter bien, même parfois pour des raisons cyniques, hein, mais au moins ils le font. Et puis on suit, on a vu dans nos études, hein, on a un dégradé jusqu'à la catastrophe totale, avec des gens qui profitent de l'envie de gens de faire des choses merveilleuses, des livres, pour les exploiter et créer un système de flux financiers, parce qu'en fait, le but, c'est de faire des flux financiers. Si aujourd'hui, on a plein de livres dans l'édition traditionnelle, c'est que ça génère des flux financiers énormes qui sont gagnants à l'arrivée. Donc voilà, la finance a pris le contrôle de l'édition, comme elle a pris le contrôle de tout dépend d'économies énormes. Et aujourd'hui, quand on essaye de se battre, y compris en organisant la fameuse mission Bruno Racine, etc., qu'on met sur la table ces problématiques de défense, de base, de travailleurs. On est en train de revenir à avant les années 40. Là, on réclame les vacances, hein, on en est à ce niveau-là. On réclame les 8 heures de travail par jour. Hein, c'est quasiment ça, le combat des auteurs. Même là, on nous dit, oh là là, mais mon pauvre fou, vous allez empêcher la création d'exister. On nous sort des arguments extraordinaires pour justifier à continuer une exploitation. On le voit se développer avec les majors d'Internet, etc. Aujourd'hui, tout le système est en train de démanteler par tous les bords. C'est intéressant, dans l'édition, on a vu le moment où les salariés de l'édition, on leur a imposé de devenir des indépendants. Ça, j'ai connu ça il y a une dizaine d'années déjà. Donc des gens qui étaient salariés, et puis s'ils disaient « Ah, mais moi, je veux pas, je veux rester salarié », on leur disait « Tu sais, c'est tout petit, le milieu d'édition. Voilà. » Alors, c'est mon milieu qui prend, là. Il est plutôt sympathique, en plus. Hein. C'est même un milieu très sympa. Il y a même beaucoup de gens très bien. Je n'arrive même pas à imaginer ce que c'est chez les vrais requins, quoi. L'ampleur de la pensée, de la destruction, et la certitude qu'ils auront toujours des gens à exploiter quand ils auront tué la vague précédente.
Tu disais, Patrick ?
Non, je disais, ça c'est dit.
plus largement, du coup, maintenant, une fois qu'on a ce constat, comment, en tant que auteur de fantasy, de SF, est-ce que on continue à montrer cela, cette opposition, est-ce que on... Merci, c'est mieux. Est-ce que on continue à montrer les dérives, ou est-ce qu'on, par quel biais on peut parvenir à montrer un peu aussi de l'espoir face à ce régime, des pistes de sortie. Est-ce que, à ton avis, Patrick?
Je pense qu'évidemment, informer, ça fait toujours partie du travail. Moi, ce qui m'intéresse dans le fait d'écrire de la fantasy, c'est que c'est un genre où je peux... En gros, je peux parler de sujets de société en mettant en évidence les rapports de force qui composent cette société dans un univers où ces rapports de force sont beaucoup plus limpides que dans notre société, à nous. Et du coup, d'user de cette parabole pour essayer de faire réfléchir aux parallèles qui sont possibles d'établir avec notre propre monde. Après, je pense qu'on a depuis longtemps passé le cap du fait que l'information soit une chose purement suffisante. En fait, je pense qu'une des grandes victoires idéologiques du libéralisme, c'est de nous faire croire qu'en gros, la manifestation, c'est devenu une extension de l'Institut de sondage, et qu'en gros, une idée, quelle qu'elle soit, va magiquement se manifester dans la société à partir du moment où il y a un certain nombre de personnes qui y adhèrent. Le fait est que quand on est sur le terrain et qu'on côtoie la violence légitime qui est déployée en face de nous, on se rend bien compte que non, en fait, ce n'est pas le cas. Donc je pense que, évidemment, oui, il faut informer. Je pense aussi que l'heure est d'essayer de peut-être aussi tirer les leçons et les conséquences de nos lectures. Après, je pense que c'est difficile aussi de faire des injonctions individuelles par rapport à ça. Je veux dire, on est tous à la fois victimes et bourreaux dans cette société qui nous plie à sa forme. Ça me semble difficile d'aller chercher, demander aux gens de pisser sous la douche, c'est pas très utile. Mais je pense qu'effectivement, la solution du coup se trouve vraisemblablement dans le collectif et dans qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et je pense que faire, ça implique d'abord évidemment de discuter ensemble, de se mettre d'accord, de nommer les choses, on en parlait tout à l'heure, de dire le mot fascisme, de dire le mot extrême droite, de dire le mot l'extermination qui vient, parce que clairement, ils sont extrêmement explicites sur qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, quand ils sont pas sur les plateaux de télé. Voire même aujourd'hui, ils peuvent le faire littéralement sur des chaînes YouTube. Je ne sais pas si vous avez suivi la vidéo de Papacito qui explique comment se procurer des armes de chasse et en gros exécuter des gauchistes. Mais c'était de l'humour, donc ça passe. Du coup, il faut aussi qu'on dépasse le dialogue. Faut qu'on se parle. Mais après, il faut qu'on se mette d'accord aussi pour agir. Et je pense qu'il est grand temps d'agir.
Denis.
Moi, ces dernières années, il y a un truc qui m'a marqué, c'est qu'il y a quand même beaucoup de strates de classe maintenant qui sont rétablies. Et c'est assez difficile de faire passer la parole et les bonnes intentions entre ces classes. L'air de rien, les utopiales, c'est un endroit extraordinaire. Enfin, on y tient toujours des choses merveilleuses, mais on y voit assez peu de voilà, il y a quand même des strates de la société qui viennent ici, qui ne sont pas toute la société. Et c'est encore très flagrant avec les gilets jaunes, avec tout ça. On se rend compte qu'il y a quand même des couches de plus en plus étanches qui ont beaucoup même de mal à se rejoindre dans les luttes. Qu'à aucun moment les questions de banlieue et les questions de gilets jaunes ne soient rejoints, par exemple, c'est assez significatif. Alors, il y a eu quelques endroits, évidemment, hein, mais globalement, ça n'a pas eu lieu. C'est assez significatif, alors que fondamentalement, ils étaient face aux mêmes horreurs. Hein. Il y avait pas de... La question ne se faisait pas une seconde, quoi. Mais parce que la campagne, la ville, le blanc, le pas le blanc, etc., à chaque fois, les petits points de rupture se rajoutent. Et aujourd'hui, on est dans une société qui, contrairement à l'image qu'on avait de la France, qui était une grande classe moyenne unifiée de la classe moyenne pauvre à la classe moyenne aisée, aujourd'hui, on a quand même des strates très différenciées. Et culturellement parlant, n'en parlons même pas, quoi. Et je trouve ça toujours... Aujourd'hui, c'est un des trucs qui m'inquiète quand j'écris. Je me demande... Alors, moi, j'ai toujours eu l'envie de faire du grand public, au sens où j'avais l'impression qu'il y avait peut-être une certaine évangélisation. Enfin, c'est un peu débile, hein, mais l'idée que... J'ai l'impression que La planète des singes, le film, avait fait beaucoup contre l'envie de se bombarder avec des armes nucléaires, peut-être plus, finalement, que tous les discours les plus raisonnables sur le sujet. Et que tous ces gens devant la Statue de la Liberté, ah les cons, ils l'ont fait. Enfin, c'est voilà, à la fin de ce film, il n'y a pas grand monde qui avait envie de voir si ça allait être rigolo la guerre nucléaire, quoi. Et ça, aujourd'hui, je ne sais même plus si on peut le faire, parce que pour accéder, par exemple, aux médias de très grande diffusion, il y a une demande de formatage maintenant qui est devenue, qui est même pas une demande de formatage politique. Hein, c'est qu'en fait, il ne faut pas que ça dépasse. Il faut tout arrondir. Il faut retirer tous les angles. Et à la fin, on ne parle plus, bah, par exemple, dans Dune, on ne parle plus de musulmans et d'arabes, de djihad, etc. C'est quand même extraordinaire quand on y pense, quoi. Je ne dis pas qu'il fallait le faire, et peut-être que c'est un bon choix, mais à chaque fois, c'est ça. Et je sais que la raison est réellement que les studios n'en voulaient pas, parce que j'ai connu le précédent réalisateur qui était sur le projet et qui s'est fait refuser une adaptation, qui avait conscience qu'on était après le 11 septembre 2001 et qu'il y avait des questions qui se posaient par rapport à la sortie du désert, quoi. Donc aujourd'hui, partout, il faut arrondir. Moi, je sens bien que mes bandes dessinées, si elles atterrissent au cinéma, il est assez probable qu'on va arrondir des choses, et en particulier les choses les plus violentes vis-à-vis de la société numérique ultra-libérale. Et pas en disant oh, bah, c'est parce que c'est pas mes opinions, mais en disant ah, faut pas choquer les gens.
Mais du coup, derrière, quelles armes on peut avoir? Je sais que tu as créé tu as participé à la création, par exemple, des états généraux de la bande dessinée, tu fais partie de syndicats. Est-ce que au final les on a déserté des institutions qui auparavant nous permettait de lutter. Je pense, par exemple, tout simplement à la tradition cégéto-communiste que nous avons peu à peu déserté le mouvement social dans sa globalité. Ou est-ce que nous avons tout à recréer et si oui, comment?
Moi, je suis un partisan de l'auto-organisation. Hein. Je reste finalement un socialiste première période par certains côtés, hein, à l'époque de Proudhon. Hein, de l'anarchisme en fait initial, qui est l'idée qu'on doit s'auto-organiser et imposer nos formes de structure aux dominants, parce qu'on va avoir beaucoup de mal à leur imposer en frontal. L'histoire de la sociale a prouvé qu'il y avait plein d'autres manières d'y arriver, le blocage, la grève, etc. Et tous ces moyens sont formidables. Aujourd'hui, lesquels on convoque, lesquels marchent, lesquels fonctionnent, c'est, enfin, on a été privés de nos armes les unes après les autres. Quand tout le monde doit payer son crédit, on ne peut plus faire la grève. On le sait bien, hein, c'est répété mille et une fois, mais c'est des catastrophes. Et donc moi, je suis retourné en fait à cette première intuition que fallait que, avec quelques autres, j'essaye en fait. Donc on a créé des syndicats, on a les états généraux, c'était pour constater la situation, justement montrer par une étude de sociologie et économique que les gens étaient pauvres réellement. Alors qu'avant, c'était juste un constat qu'on faisait entre nous dans les soirons, dans les salons le soir, un peu triste de la situation. Là, d'un seul coup, on a pu mettre des chiffres dans la gueule de tout le monde, y compris du ministère de la Culture, qui n'avait pas vu. Avec des gens qui disaient « Ah, mais on n'avait pas compris ». Mais je crois qu'ils n'avaient pas compris, réellement. Alors que c'était leur boulot d'aller observer, évidemment, la matière de leur ministère, quoi. La matière humaine de leur ministère. Donc, on peut faire ça, mais encore une fois, on bute très, très vite sur les gens en place. Nous, sur plein de choses, on s'est retrouvés à chaque fois à buter, parfois même contre des organisations d'auteurs elles-mêmes.
mais qui défend, par exemple, on sait, il y a des monstres comme la SACEM, etc., et tout, qui ont des intérêts, qui sont des sociétés d'auteurs très riches et qui peuvent avoir leurs propres intérêts, qui ne sont pas obligatoirement celles des auteurs pauvres. Donc, on se retrouve en permanence, et la France est truffée de tonnes de petits endroits comme ça, et à chaque fois qu'on essaye de faire remonter d'en bas des évidences de terrain, elles finissent par se diluer dans des millions de combats, des strates différentes, et elles se perdent. Donc moi, je n'ai pas vraiment de solution aujourd'hui, à part continuer à dire la vérité, continuer à dire la réalité, et puis espérer qu'à un moment, l'émotion et la colère que moi, je ressens, elle sera assez importante dans ce pays pour que, en effet, si on se décide à jeter des pierres, il y en ait assez pour mettre fin rapidement aux pires dérives. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que les radicalisations, elles sont très locales. Et en ça, elles finissent par servir autant les autres que le combat qu'on voudrait mener. Et c'est un truc terrible de voir tous les gens qui font vraiment la chose qu'il faut faire, mais qui sont seuls sur leur rond-point à l'arrivée. C'est ce qui était bien dans les Gilets jaunes, c'est cette impression qu'à un moment que ça prenait, que les gens se réunissaient, on peut être d'accord, pas d'accord, trouver que l'incapacité à s'auto-organiser, à faire mettre en place une programmatique a été la limite du mouvement. Mais au moins, à un moment, tous ces gens se sont dit, allez, on va faire quelque chose collectivement. Alors qu'on se retrouve dans les luttes toujours très, très seuls. Ça aujourd'hui, tous les gens, je pense, qui, à leur échelle, à leur endroit, essayent de faire des choses, savent quand même que la solitude est une des pires des choses. Et on construit des réseaux, mais les réseaux tiennent sur le courage de quelques personnes, sur l'énergie de quelques personnes. C'est jamais ces associations-là qui reçoivent les subventions. C'est jamais ces gens-là qu'on va écouter quand on organise des choses au niveau de l'État. Voilà.
Oui, je vais bien. Non, mais pour aller dans le sens de ce que vous avez dit l'un et l'autre, et pour revenir sur ta question initiale, déjà, je pense que, Patrick, tu l'as dit, il faut reposer des mots. Et moi, je pense qu'il y a un mot qu'il faut poser, c'est le mot de capital, en fait. On est dans une situation aujourd'hui où on a à nouveau, en quelque sorte, légitimité à parler du capitalisme. Parce que, vous savez, dans les années 80, on nous disait, de toute façon, il n'y a tellement pas d'alternative que le capital, c'est vraiment le système dans lequel on vit, comme l'air qu'on respire, etc. Et donc, continuer à informer, documenter les ravages, en fait, d'un système, il a une histoire, il est historiquement déterminé, mais il n'est pas unique au monde. Comme il n'a aucun scrupule, aucune morale, aucune éthique, il n'a que pour but que le profit, la rentabilité et donc l'exploitation de tout ce qui peut devenir une marchandise. Bon, ça, c'est la première chose à faire, c'est continuer à documenter ça et à assumer en fait que ce n'est pas simplement... c'est vrai que là, on est dans une phase particulièrement dure de ce système, ce qu'on a appelé le néolibéralisme, qui vise à l'expansion... total de la marchandise jusqu'au plus intime de nos existences et du vivant en général. Mais c'est son fonctionnement structurel de toute façon. Ça, c'est peut-être la première chose. Je rejoins aussi ce que disait Patrick sur le fait qu'il n'y a pas non plus d'assignation à faire, notamment aux artistes, aux créatrices, aux créateurs. Mais il y a quand même aussi des œuvres possibles pour aller dans le sens d'imaginaire alternatif. Bon, puisque je suis là, je voulais vous citer un livre que j'ai dévoré cette nuit, en fait, en le découvrant ici même, les ateliers de l'Antémonde. Ça s'appelle « Bâtir aussi ». Et donc, l'Antémonde, c'est notre monde, en fait, mais avant que ne se produise un événement décisif de rupture. Et donc, imaginer, en fait, et ce qui est intéressant, c'est que c'est une écriture collective, c'est une écriture par atelier, donc où on se penche sur ce qu'on peut imaginer. Alors, il y a bien d'autres exemples. Hier, dans le débat, on évoquait, par exemple, l'utopie d'Emmanuel Dockès dans un livre qui s'appelle « Voyage en misarchie ». Essai pour tout reconstruire. Enfin bon, il y a plein d'exemples et vous êtes beaucoup plus calé que moi pour donner des exemples de ce type. Mais je pense que aller dans ce sens pour rompre avec à la fois l'assignation à la résignation et puis l'assignation où rien d'autre n'est possible, sinon c'est la catastrophe. Non, c'est au contraire réalimenter nos imaginaires. Et puis ça se fait aussi, c'est pas que dans les œuvres, c'est pas que dans les livres ou dans les arts ou dans nos imaginations. C'est vrai qu'il y a aussi de plus en plus de cohérence d'existence entre des valeurs et leur mise en application pratique. Je pense à ce qui se fait justement dans les ZAD, mais je pense aussi à je sais pas, une société comme le Chiapas, les Zapatistes. Alors, il ne s'agit pas de fétichiser. Hein, et, bon, on sait très bien que nous, on ne pourrait pas vivre exactement comme le font les Zapatistes, mais ils nous donnent, en fait, ils nous donnent de l'espoir sur une autre manière de concevoir l'existence, le rapport au vivant, le rapport au travail, le rapport à l'enfance, à l'art, à la création, etc. Donc, ça existe, ça peut exister. Il n'y a aucune raison d'être résigné face à la catastrophe.
Tu voulais ajouter quelque chose ?
Ouais, juste que du coup, effectivement, on se retrouve aussi quelque part dans une position qui... Enfin, je parle des créateurs, on va dire des travailleurs de l'imaginaire d'une manière générale, dans une position assez étrange, parce que clairement, on est aussi face à une sorte de monolithe qui dispose de moyens absolument écrasants et qui ne se prive pas pour en fait nous plonger tous en permanence dans sa propre légitimation et dans une forme de propagande que nous interprétons pour la plupart comme une forme de normalité alors qu'elle ne l'est pas. Et du coup, effectivement, en tant que qu'auteur et autrice qui travaillons sur l'imaginaire, on a tout intérêt à essayer de contrer la chose malgré le... Moi, je, pour parler un peu, Denis, tu disais que tu trouvais qu'on était dans des sortes de dynamiques de repli un peu en ce moment. Mais je pense que c'est vrai, mais je pense aussi que c'est organique. En fait, en face de nous, il y a... physiquement et intellectuellement... Un tel rapport de force qui pèse contre nous.
J'appelais le courant là, on nage tous à contre-courant, c'est horrible. Hein,
ouais.
C'est...
Carrément, et je pense que par exemple les ZAD sont une image de ça. Enfin, d'ailleurs, ça a été théorisé un peu par le mouvement autonome, mais en gros, l'idée qu'il faille créer des poches de résistance, des lieux où on puisse entretenir le feu, entretenir une pratique, entretenir aussi des imaginaires autres. Ça, c'est l'utilité de la chose, et je pense que c'est un constat qui est, à mon grand regret, assez lucide, dans la mesure où, pour dire les choses très concrètement, en face de nous aujourd'hui, on a une institution qui cherche activement à prendre le pouvoir. Je parle de la police et de l'armée. Je rappelle qu'il y a eu cet été une tribune qui a été signée par deux tribunes. Qui ont été signés par des officiers à la retraite, mais également une tribune qui a été beaucoup moins médiatisée, mais qui a été signée par des militaires d'active, sans répercussion aucune a priori. Donc concrètement, ce qu'il y a en face, c'est ça, c'est des institutions qui sont absolument noyautées par l'extrême droite, et qui dispose au bas mot de fusils d'assaut qui tirent 720 coups à la minute. Donc nous, on a une population désarmée, qu'est-ce qu'on fait en face de ça ? Il va falloir être inventif.
Il va falloir être inventif. Et tout à l'heure, tu disais qu'il fallait qu'on se parle. Je pense qu'il faut effectivement qu'on discute tous ensemble. Et c'est pourquoi on voulait d'abord commencer à parler, poser un peu les termes et vous laisser un maximum de temps pour pouvoir échanger avec les invités. Donc si vous avez des questions, ça va être tout de suite.
Bonjour, merci d'être là. Alors, Monsieur Patrick Dewey, quand vous dites que l'armée française s'apprête à tirer sur la foule, à vous entendre, votre discours, pour moi, c'est...
Je vous arrête tout de suite parce que je n'ai pas dit ça.
Parce que là, vous dites, attaquez l'armée. C'était quelques militaires, quelques généraux à la retraite, donc ils ne font plus partie de l'armée, en quelque sorte, ils sont en deuxième section, et ils ont été rappelés à l'ordre. Et il y a eu peut-être 2-3 militaires d'actifs qui, eux...
Donc la première pétition a été signée par 40 000 personnes, la seconde par 20 000 personnes.
Non, c'est pas 40 000 militaires. Là, ce sont des fake news, c'est de la désinformation. Alors, vous travaillez peut-être au GRU, en Russie, au service mesure active de désinformation, oui. Mais ne mettez pas en cause l'armée française. Il y a des soldats qui meurent pour nous au Mali.
Pas pour moi, non.
Il y a des soldats... Si, c'est pour vous qu'ils se font tuer. Il y a des jeunes... Il y a des jeunes qui ont 20 ans qui meurent au Mali pour vous.
En fait, ils meurent pour le capital, mais ils ne meurent pas pour moi.
Là, c'est de la désinformation, ce que vous faites.
Pas vraiment.
Donc, ma question est celle-ci. Le mouvement de Macron, c'est la France en marche. Et j'ai trouvé une affiche du parti franciste pétiniste. C'est la France en marche. le macronisme est-il un proto-fascisme mainstream? Merci.
Bah, je pense que Ludivine est plus... Enfin...
On va peut-être prendre plusieurs questions et puis on répondra dans un commun...
Pour répondre au monsieur qui vient juste de parler, donc aussi à monsieur Dounet, c'était pour vous dire que ce qui est très inquiétant dans le fait qu'une armée signe une tribune qui expose quand même des idées politiques certaines, c'est qu'ils sont plus, comment dire, entre guillemets, soumis à l'État qui est censé, comment dire, assurer notre sécurité, qui est censé, je dis, parce que parfois c'est pas toujours le cas, et qui là en fait se transforme plus en milice qu'en armée censée protéger une population sous ordre d'un État. Parce que bah, ils sont en train de prendre des positions politiques qui sont pas celles du parti politique qui a été élu, donc plus ou moins bien selon les opinions, mais ils ne sont plus soumis à la volonté générale. Et c'est ce qu'ils sont censés faire. Et c'est ça qui est très inquiétant, c'est qu'on se dit bah, quand même, ce sont des gens qui sont armés, qui ne respectent pas la volonté populaire et qui nous sont en train de nous dire dans une tribune, dans un article d'extrême droite, oui, peut-être qu'on pourra passer à l'action si on estime que les choses comme on voudrait qu'elles soient faites, ne sont pas faites. C'est ça qui est inquiétant. Et c'est par exemple, c'est une certaine preuve du fascisme quand même, enfin, qui est une fascisation de notre société.
Est-ce qu'on prend une autre question ou on répond déjà à ça ? Allez-y.
Oui, non, mais je peux dire quelques mots. Oui, il faut quand même se rappeler, en effet, dans le prolongement de ce que vient de dire la personne qui est intervenue à l'instant, que dans cette tribune, on parlait de cette tribune de militaires, on parlait de hordes de banlieue, on parle de guerre, on parle de guerre sociale, on parle de guerre civile. Indépendamment de ce qu'on vient de dire sur les militaires, il faut quand même se rappeler également de ce qu'on a pu entendre dans un commissariat rouennais, dans des enregistrements de conversations de membres de la police. Je ne fais pas une généralité, je parle d'exemples qui se multiplient, y compris avec des gens, un commandant de police qui, sur France Culture, avait pu dire « Oui, en fait, le racisme, ce n'est pas juste quelques cas isolés dans la police, il y a quelque chose de structurel. » Dans ce commissariat rouennais, il y avait des membres de la police qui parlaient « Je suis désolée, je vais utiliser leurs mots. Ils m'arrachent la bouche, mais je vais quand même les utiliser pour essayer de faire en sorte d'entendre en fait, ce qu'ils nous disent. » Il nous parle de Youpin, il nous parle de Négresse, il nous parle de Bico, il nous parle de guerre raciale. Ils nous disent qu'ils sont en train de s'armer pour faire face à cette supposée guerre de civilisation, etc. C'est de ça qu'on parle, en fait. Moi, quand je vous entends dire que les militaires... Moi, je regrette que des jeunes de 20 ans meurent dans ces conditions. C'est terrible.
Moi aussi.
Mais quand je vous entends dire qu'ils meurent pour nous... J'ai toujours en tête l'expression qu'avait Anatole France, qui disait « on croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels ». Voilà. Enfin, je pense qu'il faut quand même aussi... ouais. Enfin, voilà. Bon, en tout cas, la militarisation de la société, par exemple. Vous voyez, François Sureau, c'est un avocat qui a été très proche d'Emmanuel Macron. Il a même rédigé en partie le programme de La République En Marche. Et puis... Bah, il a pris vraiment beaucoup de distance. Lui, il n'hésite pas à parler de démocrature. Il dit qu'on est face à un régime de plus en plus liberticide, face à une militarisation justement liée au fait que l'état de droit est de plus en plus remplacé par un état d'urgence permanent, par un état d'exception. Donc pour répondre, c'est pas une réponse définitive, tranchée et péremptoire, mais... ce qu'on explique en tout cas dans le livre avec Hugo Paletta, c'est que le macronisme, ce n'est pas un fascisme. Voilà, je l'ai rappelé tout à l'heure. On évoque un autoritarisme du capital. Parce que voilà, c'est un régime qui est de plus en plus autoritaire, qui est de plus en plus brutal dans l'imposition de contre-réformes qui vise à une logique de rentabilité permanente, une logique comptable, une logique de profit. Donc, servir le capital par tous les moyens et faire taire les opposants. On a parlé des gilets jaunes. Enfin, on accepte tranquillement que 30 personnes soient mutilées à vie, perdre un œil, perdre une main, sans qu'il y ait un mot de compassion ou de regret de la part de ce pouvoir à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes. On accepte qu'il y ait 750 personnes en 40 ans qui sont mortes à la suite d'interventions des forces de l'ordre. Enfin, il y a une banalisation, c'est ce que disait Denis, et c'est ce qui peut aussi faire peur et nous alarmer. C'est non seulement la violence, mais aussi la relative indifférence à la violence, me semble-t-il.
Et même, imaginons que la situation était trop loin, que les gens soient débordés et que ces terribles accidents arrivent. En effet, un an après, pas un mot pour dire on n'aurait jamais dû en arriver là, on est désolé, c'est une catastrophe. Parce que là, on serait dans le moment aujourd'hui où on devrait mettre en place le pardon, même judiciaire en l'occurrence, pour les gens qui se sont laissés emporter, peut-être trop loin, on n'en sait rien. Encore une fois, moi, j'ai même pas envie d'aller juger s'il fallait ou pas aller faire ci ou ça. Il y a un mouvement populaire, on sait bien que ça emporte les gens. Il y a sans doute des gens qui ont fait des conneries qu'ils n'auraient pas dû faire et qui doivent être les premiers à regretter aujourd'hui. Mais ces gens-là, on devrait être en train de les pardonner parce qu'on sait bien que tout ça était quand même sacrément motivé. Et sacrément juste par plein de côtés. Or, on n'est pas du tout là. Ces gens continuent à leur enfoncer la tête. Il y a des gens là qui. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu des morceaux de leur corps, mais il y a des gens qui sont en train de perdre leur morceau de leur vie complète, qui sont des gens qui ne vont sans doute pas réussir à remonter à la surface avant des décennies, tellement ils sont condamnés lourdement par les cours de justice, financièrement.
Il y a eu 1000 peines de prison ferme contre les Gilets jaunes. C'est énorme. On n'avait pas vu une telle répression judiciaire et carcérale depuis longtemps.
Voilà, et on peut tous se mettre à la place du commerçant qui s'est fait détruire sa vitrine et qui est aussi une victime de cette flambée sociale. Mais ce n'est pas une raison pour arriver à les briser autant de vies. Et surtout de ne pas réussir après, à un moment, dire « bon, on va se retendre un peu la main ». Si ce pouvoir était vraiment, comme il le dit, un pouvoir de compromis, parce qu'en fait, il y a beaucoup l'idée qu'il y aurait la droite dure, réactionnaire, il y aurait la gauche progressiste, et puis le centre serait l'endroit de la réelle politique, du compromis, de finalement, on va s'organiser, on va trouver des solutions qui iront à peu près à tout le monde. Aujourd'hui, c'est pas du tout ça que j'entends, moi. Ce que j'entends, c'est en effet, on a eu un peu peur, et puis là, on n'est pas prêt de relâcher la bride. Hein. Donc, c'est ça, moi, qui m'embête le plus dans le macronisme, c'est qu'ils ne sont même pas fidèles à leur propre histoire, et on voit bien qu'il y a un cynisme politique total à continuer à laisser à penser qu'il sera un parti de centre.
Oui, enfin, il y a un storytelling et la réalité, quoi. Juste pour revenir à ce que vous disiez, moi, je voudrais préciser que je ne crois pas qu'aujourd'hui l'armée soit sur le point de tirer sur la foule. Ce dont je parle, c'est d'une institution qui se trouve aujourd'hui en capacité d'établir, avec ce gouvernement notamment, un rapport de force. Ce qui veut dire que l'extrême droitisation de la politique de ce gouvernement, que ce soit du point de vue de la manière dont elle s'exprime autoritairement, ou des idéologies et des feux de paille médiatiques qu'elle crée incessamment pour ne pas qu'on parle de ses échecs. Nous, en fait, on est désarmés face à ça, en fait. Les casernes sont les endroits où, sociologiquement, il est le plus facile d'établir les profils politiques. Parce que justement, ce sont des gens qui sont tous regroupés au même endroit et qui ont une, il y a une non-mixité sociale près des bureaux de vote des casernes. Et donc, on sait à quel point ces institutions sont noyautées à l'heure actuelle par une idéologie fasciste. Et on sait que ce sont ces gens et seulement ces gens qui ont les armes aujourd'hui. Et les politiciens le savent aussi. Et les compromis qui sont faits dans la politique actuelle libérale de Macron. Moi, je ne crois pas que ce soit tout à fait un hasard. Moi, je pense qu'ils ont tout à fait conscience de ce rapport de force et que ça ne les dérange pas de jeter pas mal de gens sous les roues du camion pour pouvoir continuer à faire leurs affaires tranquillement. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que nous passions à la remise des prix ? Alors là-bas, il me semble...
J'espère que je vais pouvoir... Ça va, vous m'entendez ?
Oui.
Penseriez-vous que nous sommes dans une fin de cet état avec l'effet domino ? Par exemple, tout ce qui est militaire, l'économie, etc., qui sont bien gardés.
Est-ce que vous pouvez reformuler votre question, s'il vous plaît ?
Je disais que... Comment formuler, reformuler la fin de ce... Non, ça va être chaud.
Ou peut-être redites votre idée. Enfin...
Je disais que c'était la fin d'une certaine idéologie, parce qu'il y a trop d'emprise sur certaines choses, par exemple l'armée, l'économie, et que ce serait la fin de la République, d'une certaine manière.
Ah, le régime politique. En tout cas, on peut avoir l'impression aujourd'hui qu'on a un État finalement très faible, qui se défend de manière très brutale. Moi, c'est un truc dans les ministères qui m'a frappé, c'est qu'on peut avoir, parce que je me retrouve en négociation, on s'attend à arriver dans un endroit où il y a plein de gens qui travaillent, et puis en fait, tout le monde est à la bourre tout le temps, parce qu'il n'y a plus assez de fonctionnaires, il n'y a plus assez de personnel, etc. Et tout l'État aujourd'hui est dans un état de faiblesse à tous les étages. Alors, c'est hyper identifiable dans la justice, mais aussi dans la police, en l'occurrence, là, on peut leur donner des points.
Dans la recherche.
Voilà, c'est moins l'État, la recherche. Enfin, pas, pour l'instant, elle est encore indépendante, mais elle tient ses moyens en partie de l'État. Mais partout, il y a un État faible, et en fait, au moment où il est menacé dans son existence même, au moment où les ministères sont menacés, d'un seul coup, là, en effet, on en voit la violence de l'État se déclenche. Donc, je pense qu'au-delà même de l'idéologie ultralibérale, la faiblesse de notre État en remet une couche, quoi. On est sur un système qui va nous amener de plus en plus de violence. Moins les hôpitaux marcheront, plus il y aura de violence. Moins les policiers seront payés, formés, etc., plus il y aura de violence. Tout ça, c'est des évidences, hein, mais en fait, on a une accumulation là, de raisons à avoir une violence interne à notre pays et à plein d'autres, et en plus avec un défaut de surveillance du système vis-à-vis de lui-même qui fait qu'en effet les pires peuvent se lâcher en toute liberté et contaminer l'ensemble de l'endroit où ils sont de leurs actes et de leurs pensées, quoi.
La petite nuance que j'aurais par rapport à ce que tu viens de dire, c'est peut-être la différence entre l'État et les services publics. C'est-à-dire que moi, je pense que l'État, il est plutôt fort, même s'il a été fragilisé, même s'il est parfois inquiet par certaines mobilisations sociales. Hein. Mais en fait, justement, ça a été très documenté, le néolibéralisme, le capitalisme dans sa phase néolibérale, c'est pas un moins d'État, c'est une intervention de l'État pour aller toujours plus dans le sens de la reproduction justement du capital. Mais ce n'est pas contradictoire avec ce que tu dis, parce que pendant qu'on a supprimé 100 000 lits d'hôpitaux en 20 ans, et encore 5 000 lits en pleine pandémie l'année dernière, eh bien, les budgets des forces de l'ordre, de l'armée, de la police s'accroissent. Donc, ce n'est pas une réponse du tout à la question que vous avez formulée, mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est à la croisée des chemins, quoi. Enfin, on est vraiment face à deux chemins possibles, et il n'y a rien de fatal, il n'y a vraiment rien d'inéluctable, mais on a beaucoup parlé, voilà, de ces tendances à l'autoritarisme, à une violence de plus en plus généralisée, mais il y a aussi désespoir, en fait, espoir, pas désespoir seulement, mais des formes d'espoir dans toutes les formes, justement, d'auto-organisation, le fait qu'il y a de plus en plus de lucidité, quoi, par rapport à ces ravages-là. Il y a des enquêtes qui se multiplient sur le fait qu'il y a une majorité désormais de personnes qui estiment que ce système, il est mortifère, il est délétère. Après, la question, c'est vraiment quelles sont nos alternatives. Et donc, ça revient à dire, voilà, ce qu'on a essayé de souligner tout à l'heure, c'est-à-dire la nécessité de nourrir les forces de l'alternative concrète, tangible, en refusant de dire que, bien sûr, on est les utopiales ici. C'est peut-être utopique, mais ce sont des utopies concrètes, ce sont des utopies tangibles qui n'ont rien de lunaire ou de complètement imaginaire.
Est-ce que tu veux un dernier mot, Patrick ?
Oui, un petit dernier mot, du coup, pour répondre à la question. Moi, je crois qu'on vit dans une époque où, en gros, on assiste un peu à... c'est un peu l'heure de vérité, quoi. En gros, on a le storytelling républicain qui s'effondre, qui prend l'eau un peu de partout. Mais en fait, je pense que ça, c'est rendu visible pour nous. Mais encore une fois, c'est pour moi essentiellement une grande mythologie, en fait. Va tenir ce discours-là dans les banlieues, chez les gens qui ont subi les violences d'État que les Gilets jaunes ont découvert, genre, il y a 2 ans. Eux, ils subissent ça depuis 30 ans. Là-bas, la République telle qu'on la fantasme et telle qu'on nous la vend à l'école, elle n'a jamais vraiment existé, en fait. Et du coup, c'est juste que, puisqu'on arrive aujourd'hui dans une configuration économique où la peinture s'effrite un peu, on le voit, l'empereur est nu. Voilà, l'empereur est nu.
Merci à tous. Merci à tous les intervenants. Et lisez Bâtir aussi chez Cambourakis, les ateliers dans tes mondes. Excellente journée. Et en suivant la cérémonie de remise des prix.
Futur, littérature, cybernétique, avenir, prospective, science-fiction, liberté, utopie.
We can face any future.
Any future.
Any future.
Le podcast des Utopiales. Utopiales 2021.